immédiatement. Par exemple, un train d'atterrissage, les moteurs, là c'est très lourd et ça coule. Maintenant, les morceaux du fuselage, les morceaux de voilure peuvent continuer à flotter un certain temps ou même très longtemps à la surface de l'eau.
Ce débris a voyagé sur plusieurs milliers de kilomètres avant de s'échouer sur une plage française. C'est donc la justice française qui s'est chargée de l'expertiser. Rappelons d'ailleurs que la France est aujourd'hui le seul pays à continuer encore à enquêter. Le flaperon saisi a donc été amené à Toulouse pour être présenté aux enquêteurs.
Et alors quand vous le regardez de près, il se trouve que cette pièce a un défaut majeur, sans même rentrer dans les détails, c'est qu'il a perdu sa plaque d'immatriculation.
Toutes les pièces importantes qui composent un avion sont obligatoirement immatriculées, numérotées et répertoriées.
La seule instance dans laquelle on enlève une plaque d'immatriculation à une pièce d'un avion, c'est quand un avion est démantelé ou décommissionné. Là, c'est obligatoire.
Or, il ne reste que 6 Boeing comme le MH370 encore en activité sur les 18 achetés par la Malaysia Airlines en 2002. Les autres ont pu être démantelés, comme une voiture à la casse ou louée à d'autres compagnies aériennes. Ce flaperon pourrait-il provenir d'un autre appareil? Comment faire pour être sûr que ce soit celui du MH370?
Donc on est allé chercher des numéros à l'intérieur du débris, qui sont des numéros de pièces sous-traitantes fabriquées en Espagne.
Sur les 12 numéros inscrits à l'intérieur du flaperon, un chiffre seulement concorde avec les documents du sous-traitant espagnol. Bizarrement, les numéros sont écrits à la main sur le rapport, un peu léger comme preuve dans une affaire aussi dramatique.
Moi, je ne m'attendais pas à ce que la traçabilité soit écrite à la main dans les sous-traitants de Boeing.
Malgré tout, le rapport d'enquête français conclura bien que ce flaperon appartient au Boeing de la Malaysia Airlines.
Ce débris, oui, il est bien d'un Boeing. Ce débris, est-ce qu'il a fait tout ce chemin? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a été amené là? Est-ce qu'il est de cet avion? Je n'en ai pas une certitude à 100. Je ne suis pas sûr de ça.
Malgré les recherches effectuées autour de l'île, à part le flaperon, aucun autre débris du MH370 ne sera retrouvé à La Réunion. En revanche, sur d'autres côtes de la région, des débris sont peu à peu découverts.
Donc on a trouvé d'autres débris. On a trouvé des débris donc à l'île Maurice, sur les côtes africaines.
Au Mozambique, en Tanzanie ou encore en Afrique du Sud.
Il faut les prendre en considération comme une preuve supplémentaire que l'avion est bien tombé dans l'océan Indien.
Peut-être, mais en tout cas, pas là où les recherches ont été menées.
Suite aux premiers débris qui ont été trouvés, il y a plein d'océanographes qui ont fait des analyses en fonction des zones probables où est tombé l'avion. Ils faisaient des analyses de dérive.
Et la conclusion de ces analyses de dérive nous indique que l'on devrait retrouver des débris sur la côte est de l'île de Madagascar. Une fois cette information communiquée officiellement, les familles des victimes décident de participer à une campagne de recherche et de sensibilisation sur l'île.
Donc on est allé là-bas avec les familles pour quelque part faire une grande page de com vis-à-vis des médias locaux, des gens locaux, des pêcheurs locaux, pour dire « il y a sûrement des débris sur vos plages, il faut les retrouver ». Voilà, donc c'est ça qu'on a fait.
Mais derrière cette campagne de communication, on retrouve un drôle de personnage. Blaine Gibson. Cet Américain s'est pris de passion pour l'histoire du MH370 après avoir vu un reportage à la télévision. Il est avocat et aussi un peu aventurier.
Qui n'a pas vraiment de boulot, qui n'a pas de famille, qui a zéro problème d'argent, qui parle si lent couramment, dont le français et le russe.
Et ce gars-là, il passe sa vie à chercher les débris de cet avion-là.
Depuis son apparition, Blaine Gibson intrigue.
Donc il voyage dans le monde entier. Et c'est lui qui a trouvé un débris. Un jour, il va sur une plage au Mozambique et il trouve un débris. Et en plus, quand il trouve le débris, tous les journalistes américains sont là. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais il passe 2 heures sur une plage, il trouve un débris.
Est-ce que quelqu'un a une règle?
Avant qu'on y aille, il dit à France 2, envoyé spécial, il doit y avoir des débris à Madagascar. Et quand il fait venir France 2, il trouve un débris.
Une règle? Quelle distance, là, entre les trous?
Donc, ce gars-là a trouvé plein de petits débris, qui sont peut-être de l'avion, peut-être pas de l'avion. Mais ce gars-là a une tendance à... est assez fort pour trouver pas mal de débris. Donc, voilà.
Malgré ses doutes, Guylain Vatrelos va tout de même suivre Blaine Gibson dans l'aventure.
Donc moi, je vais dans un endroit, les Malaisiens vont dans un endroit, et les Chinois vont avec Blaine. Devinez qui trouve un débris ce jour-là? Les gens avec Blaine. Donc encore une fois, bah voilà. Il fait venir les familles, ils vont une journée sur une plage, ils trouvent un débris. Bon, il a beaucoup de chance. Il a beaucoup de chance, ce gars-là.
Tous ces gens qui ont la chance, dès qu'ils se baladent sur une plage, de trouver des débris, c'est formidable. J'aurais envie d'en sourire si je défendais pas quelqu'un qui nécessairement souffre de tout ça à un moment donné. Voilà.
Ce qui est étonnant aussi sur Blaine, c'est que ce gars est hyper connecté. Ce gars, quand il va en Australie, il est reçu par le Premier ministre. Ce gars, quand il va en Malaisie, il est reçu par les ministres. Donc moi, je comprends pas. Moi, je sais pas comment il fait. Il est extrêmement bon. Il est extrêmement chanceux, extrêmement bon, extrêmement connecté.
Donc, Blaine Gibson est un personnage très singulier. Sa venue sur l'île de Madagascar serait-elle uniquement le fruit du hasard? Personne n'a répondu à cette question. Quoi qu'il en soit, Blaine Gibson va chercher des débris pendant plusieurs mois. Ce qu'il trouvera seront considérés comme appartenant, probablement, au MH370, ou en tout cas à un Boeing. Ces débris viennent donc accréditer une nouvelle fois la thèse officielle selon laquelle le MH370 se serait bien abîmé dans l'océan Indien. Depuis le début de cette tragédie, face aux atermoiements des officiels, des scientifiques du monde entier ont voulu comprendre. Ils se sont réunis sous la bannière de l'Independent Group. Ensemble, sur des forums, ces experts se sont mis à travailler et à échanger sur les différents aspects de l'enquête. Ils étaient tous très critiques à l'égard du rapport officiel et de l'utilisation des données Inmarsat.
Les données Inmarsat, c'est n'importe quoi depuis le début. C'est soit contradictoire, soit inexploitable, soit faux.
C'est pas notre point de vue. Il y a suffisamment d'informations pour construire notre théorie fondée sur une trajectoire qui nous semble réaliste.
Le groupe français Captio réunit des experts en aéronautique, passionnés par la disparition du MH370. Extrêmement reconnus dans leur domaine, ils sont tous spécialistes. Certains du trafic aérien, d'autres de l'analyse numérique, ou encore de la simulation par ordinateur. Pendant plusieurs mois, sur leur temps libre, ces spécialistes ont repris point par point l'ensemble des éléments du rapport officiel. Ils ont décrypté les données, recommencé les calculs, relu l'ensemble des conclusions. Résultat, leur hypothèse pourrait bien révolutionner toutes les théories émises jusqu'à présent pour comprendre la disparition du MH370. Nous avons rencontré deux des membres du groupe Captio, Jean-Marc Garraud et Jean-Luc Marchand.
Donc ça, c'est effectivement des gens extrêmement compétents, hein, et qui se sont dit, mais en fonction des Inmarsat, on peut trouver une autre trajectoire.
Donc, on a fait l'hypothèse d'une trajectoire qui était liée à la structure de l'espace aérien pour se cacher.
Ensuite, ils ont fait une déduction simple et limpide. S'il y a eu détournement, c'est qu'il y avait des pirates de l'air à bord de l'avion. Il leur fallait donc être discrets. Et pour l'être, ils se sont notamment mêlés au trafic aérien.
On s'est dit, à chaque point important, on se met à la place du pilote. Enfin, non, pardon, des gens aux commandes, parce qu'on ne sait pas qui prenait le contrôle de l'avion à ce moment-là. Et qu'ont-ils fait et qu'auraient-ils fait?
C'est quand on détourne un avion, c'est pas pour aller se perdre au milieu de l'océan Indien. C'est pour aller quelque part.
Contrairement aux conclusions officielles basées sur les analyses froides et scientifiques des ingénieurs d'Inmarsat, le groupe Captio a choisi une approche beaucoup plus humaine. Ils ont travaillé comme de vrais Sherlock Holmes pour comprendre ce qui s'était passé depuis le début de l'histoire, depuis ce fameux demi-tour en mer de Chine.
Comme des enquêteurs avec une boussole intellectuelle à la main. Pas une boussole géographique, mais intellectuelle. À chaque point important, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a pu se passer, pourquoi. Et ensuite, de comparer les résultats avec ces fameuses données Inmarsat.
Et ça concorde point par point. En se mettant dans la tête des pirates de l'air, Captio a trouvé une trajectoire qui fonctionne parfaitement avec les données rendues publiques par Inmarsat. Leur théorie est simple. Selon eux, des pirates de l'air ont pris le contrôle de l'appareil dans le but de faire un échange de prisonniers. Pour faire cet échange, ils devaient trouver un terrain d'atterrissage. Ils avaient donc une destination finale et un but précis. Mais avant de prendre le contrôle de l'avion, il leur fallait déjà monter à bord de l'appareil. Pas trop compliqué quand on sait que la sécurité de l'aéroport de Kuala Lumpur laisse particulièrement à désirer. Donc, certains des pirates seraient montés normalement à bord de l'avion en embarquant parmi les passagers. Mais un autre pirate, lui, se serait introduit dans le compartiment électronique situé à l'avant de l'appareil, sous le cockpit. Pour y accéder, trois possibilités. Soit la soute à bagages, soit l'accès des pompiers qui est toujours déverrouillé, ou encore par une trappe située derrière le cockpit, là où tous les passagers ont potentiellement accès. Le rôle de ce pirate aurait été de couper les systèmes de communication à un instant précis, rendant ainsi l'avion invisible. Pour y arriver, il lui aurait fallu couper plusieurs circuits électriques, privant ainsi l'avion de certains de ses systèmes.
Et l'avantage, c'est qu'en faisant cette coupure, ça déconnecte les électro-aimants de la porte blindée, donc ils peuvent rentrer dans le cockpit.
Rappelons que depuis le 11 septembre 2001, l'accès au cockpit est protégé par une porte blindée qui s'ouvre soit de l'extérieur avec un digicode, soit de l'intérieur quand le pilote a vérifié l'identité de celui qui voulait entrer. À partir de là, les pirates auraient pris le contrôle de l'appareil et effectué un demi-tour. Pour ne pas attirer l'attention de l'armée ou des contrôleurs aériens, ils auraient navigué juste au-dessus des frontières et se seraient mêlés au trafic aérien. À la sortie du détroit de Malacca, en quittant l'espace surveillé par les radars militaires malaisiens, les pirates auraient alors remis l'électricité à bord de l'appareil. Captio pense que ce serait pour le confort des passagers. Mais cet acte aurait eu des conséquences auxquelles les pirates n'avaient pas pensé. En effet, la reprise du courant aurait réenclenché les systèmes de communication par satellite. Ainsi, les fameux pings d'Inmarsat auraient été de nouveau renvoyés régulièrement à l'insu des pirates. Après la sortie du détroit de Malacca, l'avion aurait poursuivi sa route vers le sud en longeant l'île de Sumatra.
À ce moment-là, il fallait qu'ils descendent en dessous de la couverture radar des Indonésiens. Et les Indonésiens sont plus chatouilleux en termes de protection de leur espace aérien que les Malaisiens.
Il va descendre à 10 000 pieds. Et puis, encore une fois, un peu plus tard, il va descendre à 5 000 pieds, où là, il va rester et se mettre en croisière à 5 000 pieds.
La trajectoire proposée par Captio est parfaitement cohérente avec les données d'Inmarsat. Et pourtant, au lieu de se baser sur une vitesse et une altitude constante comme l'a fait Inmarsat, Captio a fait varier l'altitude de l'avion sans toucher à sa vitesse.
Donc on s'est dit, ils cherchaient vraiment à atterrir puisqu'ils ont fait tout cet effort pour éviter les collisions, le trafic, la visibilité, c'était pour atterrir sain et sauf quelque part.
Et la destination finale, loin des zones de recherche menées dans l'océan Indien, Christmas